L'actualité des Alpes du Sud avec l'abstention grande gagnante de ce premier tour des élections municipales.
En pleine crise du coronavirus, alors que le pays est désormais au stade 3, les taux de participation ont été plus que faibles. Au niveau national, plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu aux urnes.
Néanmoins, dans certaines communes, la confiance a été renouvelée dès le premier tour au maire sortant.
C'est le cas à Sisteron avec un 7e mandat pour Daniel Spagnou, un 4e à Embrun pour Chantal Emehoud. À Gap, victoire également de Roger Didier, mais sur fond d'abstention avec près de 65%.
À Digne-les-Bains, Briançon encore, Manosque, un second tour aura bien lieu, mais s'il est maintenu.
Cette semaine, la question sera donc de savoir si des alliances vont se nouer alors que les scores sont parfois extrêmement serrés. Analyse dans ce journal.
Et en pleine crise sanitaire, alors que les commerces non essentiels sont fermés depuis ce dimanche, la CCI des Hautes-Alpes veut accompagner au mieux les entreprises.
Des mesures d'urgence exceptionnelles ont été prises.
Et puis, un sport, Sébastien Ogier, lui, s'est imposé sur le rallye du Mexique.
Oui, un rallye au goût particulier puisqu'il a été écourté à cause du Covid-19. Victoire du haut alpin, mais avec une saveur un peu particulière. Météo et c'est lumineux.
Oui, à part quelques passages nuageux de haute altitude, l'ensemble est assez lumineux. Et côté température, ça s'échelonne de 14 à 19 degrés sur les Hautes-Alpes et de 16 à 20 sur les Alpes de Haute-Provence.
Alpes 1, municipal 2020.
C'est donc dans un contexte bien particulier que les Français sont allés voter ce dimanche, en pleine crise du coronavirus, alors que le pays est désormais au stade 3. Les taux de participation ont été plus que faible.
Au niveau national, plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu aux urnes. Cette faible participation a pu, dans certaines communes, bouleverser tous les pronostics. Entre maires sortant confiants et scores plus que serrés, ce premier tour nous a réservé quelques surprises, Elena Saracani.
Un mot revient dans toutes les bouches, coronavirus, ça n'aura échappé à personne. Le passage au stade 3 de l'épidémie samedi soir a considérablement bouleversé ce premier tour. À Digne-les-Bains, la maire sortante Patricia Grenet-Brunello se hisse en tête avec 27,22% des voix. Une première place dont se félicite l'élu, mais qui a forcément une saveur différente en pleine crise sanitaire. Du côté de Gilles Chalvet, challenger de ce scrutin avec 22,26% des voix, c'est l'émotion et la reconnaissance qui priment. La liste terdinoise Devoir d'agir du médecin hospitalier a créé une véritable surprise. Le candidat considère que son équipe incarne le renouveau de la vie politique dinoise. Mais là où ce premier tour a déjoué tous les pronostics, c'est sur le score de Marianne Baudouy. Tête de liste Debout la France, les Dinois d'abord, la conseillère municipale sortante n'a obtenu que 13,52% des voix. Derrière l'union de gauche portée par France Gally et ses 16,42%. Alors qu'en 2014, elle était arrivée en tête au premier tour avec 27,68%. Richard Valla a annoncé que le travail continue dans un communiqué. La tête de liste Ensemble pour Digne-les-Bains a obtenu 20,57% des voix. Malgré les mesures d'hygiène mises en place dans les bureaux de vote, près d'un électeur dinois sur deux n'a pas voté. À Manosque, difficile de dire si c'est à cause du très fort taux d'abstention, plus de 60% des inscrits, mais le score est plus que serré. L'unique représentant de la gauche, Patrick Garnon, de la liste Demain Manosque, est à égalité parfaite à 22,16% avec le divers droite Camille Galtier à la tête de la liste Manosque, notre parti, pour ce premier tour des élections municipales. Camille Galtier qui considère que son équipe est la seule qui fasse barrage aux extrêmes. Les deux candidats sont suivis de près par le candidat d'extrême droite Christian Gérard à 21,99% des voix. Après quasiment deux décennies de mandat pour le maire sortant Bernard Jean-Mé Peralta, son héritier Armel Le Hen n'a pas convaincu. Le conseiller municipal sortant doit se contenter d'une quatrième place avec 21,04% des suffrages. Enfin, Laurent Raimondo a obtenu 12,65% des suffrages.
Et Elena, à Sisteron, Daniel Spagnou va entamer un 7e mandat malgré la présence de deux listes adverses. À Forcalquier aussi, les résultats sont très serrés entre les deux premiers du scrutin, David Géant et Dominique Rouanet.
Le maire sortant, Daniel Spagnou, l'a emporté dès le premier tour avec 57,02% des voix devant Sylvain Jaffre, qui a obtenu 30,94% des suffrages, et Cyril Derdiche avec 12,05%. C'est la deuxième fois consécutive que Daniel Spagnou est élu dès le premier tour. En 2014, il s'était imposé avec plus de 70% des voix. Là où ces municipales se démarquent de 2014, vous l'aurez deviné, c'est au niveau de la participation. 52% des électeurs cisteronnais se sont rendus aux urnes, là où d'habitude, ils sont plus de 70% à le faire. Seules 6 voix séparent David Géant de Dominique Rouanet, un duel entre listes divers droite et divers gauche. Les deux candidats ont obtenu respectivement 42 41,09% et 41,83% des voix, avec un taux de participation un peu plus élevé que la moyenne nationale. Avec près de 60% de votants, rien n'est joué donc pour le second tour, d'autant plus qu'Éric Liotot a obtenu 16,08% des voix qui peuvent faire basculer cette élection. Ce n'est pas la première fois que les résultats sont si serrés à Fort-Calquier. Souvenez-vous, en 2014, au second tour, seules 22 voix séparaient Christophe Castaner de Sébastien Ginet. Du côté de Barcelonnette, courte victoire de Sophie Vagenéricourt face au novice en politique Louis Garnier. La tête de liste Barcelonnette au cœur 2020 a obtenu 51,38% des voix et décroche 18 élus au conseil municipal. L'équipe de Louis Garnier obtient 5 sièges après une courte campagne. L'ancien chef d'entreprise s'est lancé dans la course à la mairie à la fin du mois de février pour empêcher qu'il n'y ait qu'une seule liste en compétition. Là aussi, les électeurs, ou du moins la moitié des inscrits qui s'est rendue en bureau de vote, ont majoritairement fait le choix de la continuité puisque Sophie Vagenéricourt est l'une des adjointes du maire sortant Pierre-Martin Charpenel.
Merci Elena. Sur le département des Hautes-Alpes, malgré l'abstention, ce premier tour permet de mettre en avant des constats clairs.
Les électeurs ont confiance en leur maire avec de nombreux édiles élus dès ce dimanche et ce notamment dans de très nombreuses communes de plus de 1000 habitants du département. Christophe Laurenceau.
Ville-préfecture des Hautes-Alpes, Gap n'a pas laissé place au suspense en élisant dès le premier tour Roger Didier pour un nouveau mandat. 6 ans de plus pour l'édile de la capitale douce en poste depuis 2007, qui devance les listes orientées à gauche, Ambition pour Gap et Gap Autrement. Une victoire teintée pour les deux perdantes du jour par l'absentéisme qui atteint près de 65%. Autre maire de longue date, Chantal Emeaud a remporté son duel face à son ancien adjoint Marc Viossa. Une satisfaction pour l'élu de la petite Nice des Alpes qui est ému par cette confiance une nouvelle fois renouvelée par les Embrunais, une habitude qui se réitère depuis 2001. À la Reine-Montéglin, c'est également avec une grande émotion que le maire sortant Jean-Marc Duprat remporte cette élection municipale face à la liste de Maurice Brun. Arrivé en poste suite à la démission d'Henriette Martinez, pour raison personnelle, l'édile dédie cette victoire à son ami de longue date qui porte avec lui ce bilan qui a convaincu les Laragnais. Un bilan qui a également convaincu des électeurs de nombreuses communes de plus de 1000 habitants qui ont ainsi permis à leur maire sortant de célébrer dès ce premier tour. Joël Bonafou à la Bâtie-Neuve, Jean-Marie Barral à Châteauroux-les-Alpes, Christian Durand à Chorges, Jean-Pierre Gandois à Crau, Gérard Nicolas à Valbuèche-Méouge, Maurice Chautan à la Roche-des-Arnauds, Laurent Domarc à Saint-Bonnet-en-Champsaur, Serge Giordano à Saint-Martin-de-Carrière, Victor Béranguet à Savine-le-Lac, Fabrice Froment à Serre, Jean-Michel Arnaud à Tallard et finalement Sébastien Fine à Villars-Saint-Pancras.
Et malgré cette confiance renouvelée, à de nombreux maires, surprises et indécisions ont également été de mise lors de ce premier tour.
C'est Vennes qui a offert la grande surprise de cette soirée électorale avec la victoire de la liste Un Horizon pour Vennes menée par Christian Gilardeau-Truffinet. Et ce, dès le premier tour, avec le maire René Moreau non candidat à sa propre succession. La majorité municipale s'est réunie autour de la candidature de l'adjointe à l'urbanisme et conseillère départementale Bernadette Saudemont, un ticket qui ne s'est pas révélé gagnant pour cette liste orientée à droite, comme celle de l'autre perdant de ce premier tour, Marc Ventre, une défaite pour la droite qui doit rendre à l'opposition cette mairie qui était une chasse gardée durant des années de la gauche. À Guillestre, ce n'est pas seulement la majorité qui est renversée, mais son édile. Dans le Quira, les électeurs ont décidé de voter majoritairement pour la liste Guillestre Ensemble de Christine Portevin, laissant ainsi sur le carreau le maire sortant Bernard Leterrier. Des surprises donc, mais également des seconds tours ouverts pour deux communes et pas les moindres, Briançon et l'Argentière-l'ABC. Avec 37,38% des voix, c'est en tête que se retrouve Arnaud Murgia à l'issue de ce premier tour des élections municipales à Briançon. Le candidat Les Républicains de la cité fortifiée devance le maire sortant Gérard Fromme, Romain Griska et la liste citoyenne Aurélie Boyau. Le grand perdant de cette soirée est sans conteste le candidat En Marche de Stéphane Jules qui a seulement récolté 5,82% des suffrages. Du côté de l'ancien fief de Joël Giraud, désormais député des Hautes-Alpes, le suspense était à son comble avec 3 candidats dans un mouchoir de poche. Demain nous appartient de Marie-Noëlle Disdier est en tête avec 34,59% des voix, juste devant le maire sortant Patrick Vigne avec 34,16% des voix et finalement 31,25% pour Alice Prudhomme avec sa liste unie pour l'Argentière-l'ABC. Une triangulaire des plus indécises nous attend dimanche prochain si le second tour de ces élections municipales ô combien atypiques aura bel et bien lieu.
Et vous l'avez compris, on parle de la liste citoyenne d'Aurélie Poyot. Tous les résultats de toutes vos communes ainsi que de nombreuses réactions sont à retrouver sur alpe1.com.
Alpe 1, toute l'actu des Alpes du Sud en direct. Édition spéciale.
Tous les lieux accueillants du public non essentiel sont donc fermés depuis ce dimanche partout en France suite à l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe.
Sans concerner les restaurants, cafés, commerces non essentiels, cinéma et discothèques, magasins alimentaires, pharmacies, stations, essence, tabac et banques resteront ouverts. Le Premier ministre a appelé les Français à limiter au maximum leurs déplacements, notamment interurbains. Nous évoluons vers une épidémie généralisée dans les prochains jours, a souligné Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.
Et conséquence également de l'annonce d'Édouard Philippe, les établissements thermaux des Alpes de Haute-Provence n'accueillent plus de nouveaux curistes.
Ils ont engagé la fermeture de leur activité, annonce hier la préfecture et l'agence régionale de santé.
Et puis Aurore, idem hein, bien sûr pour les stations des Alpes du Sud qui sont toutes fermées.
Oui, Serre Chevalier, Le Dévoluy, Montgenèvre, Risoul ou encore Puy-Saint-Vincent l'ont par exemple annoncé très rapidement sur les réseaux sociaux. Des mesures donc mises en place dès l'annonce du Premier ministre samedi soir. Une saison qui se termine quelques semaines plus tôt que prévu.
Et puis en face de cette situation de crise sanitaire, la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes a donc pris des dispositions d'urgence exceptionnelles.
Objectif apporté aux entreprises subissant les conséquences économiques liées au coronavirus, l'information et l'accompagnement nécessaires. Pour ce faire, un ensemble de mesures ont été mises en place pour soutenir d'une manière temporaire les entreprises en difficulté. Il y a notamment des reports de charges en tout genre, la prise en charge du chômage partiel et un soutien de la région. Écoutez Éric Cord, président de la CCI des Hautes-Alpes.
Alors, il y a 8 mesures très fortes qui ont été, pour cette entraîne en plus, mises en place de façon très très rapide. Hein. On a l'URSSAF qui a été très rapide là-dessus. On a la DFIP qui, encore ce matin, a une nouvelle annonce sur les acomptes d'impôts société. Et puis, on a aussi la région qui a gonflé son enveloppe d'aide aux entreprises avec un fonds qui a été monté à 12 millions sur lequel la CCI instruit les dossiers. Donc, en fait, toutes les structures, en tout cas, tous les collecteurs d'impôts et autres taxes sont en ordre de marche, y compris la directe avec le service de l'État sur le chômage partiel pour pouvoir commencer à anticiper et proposer un certain nombre de solutions immédiates et déjà pour les trésoreries, en tout cas. Pour l'instant, ça va sauver certainement les trésoreries pour au moins le mois qui arrive, peut-être le mois d'après. Après, ce qu'on a du mal à anticiper aujourd'hui, c'est vraiment la dégradation des chiffres d'affaires. Alors, on le voit sur certains secteurs, hein, autocaristes, les entreprises d'événementiel.
Des propos recueillis par Olivier Milleville. Notez que la CCI des Hautes-Alpes continuera de vous tenir informé par des newsletters flash sur son site internet et sur les réseaux sociaux.
Et la préfecture des Hautes-Alpes activera son code centre opérationnel départemental dès ce lundi.
Décision de la préfète Martine Clavel. Elle indique que les services de l'État se réorganiseront pour recentrer leur mission sur la gestion de cette crise alors que le territoire est passé en stade 3. Il confirme donc une circulation active du virus. Et justement, un nouveau patient a été pris en charge dans les Alpes de Haute-Provence. C'est ce qu'annonce l'ARS et la préfecture. La personne a été transférée dans une des chambres spécialement préparées de l'hôpital de Manosque. Il s'agit du 7e cas détecté sur les Alpes de Haute-Provence et du 5e pris en charge dans le département.
Vous le savez, hein, ce lundi partout en France, les établissements scolaires ne recevront pas ni enfants, ni collégiens, ni lycéens, ni étudiants.
L'Académie d'Aix-Marseille précise qu'il ne s'agit pas d'une fermeture administrative des écoles et des établissements qui continueront à être ouverts au personnel de direction administratif et de gestion. Une continuité pédagogique doit en effet être assurée, mais certains syndicats se disent inquiets. C'est le cas notamment de Sud Éducation 05. Écoutez Emmanuel Maigret de Sud Éducation, membre du comité hygiène, sécurité et conditions de travail.
Concernant le télétravail, ben nous on tient à rappeler qu'il n'y a pas de cadre légal qui oblige les personnels à faire du télétravail. Il y a revendicable le fait de mettre à disposition du matériel pour ceux qui voudraient le faire, du matériel approprié. Je parle pas simplement des plateformes informatiques, mais des ordinateurs, des connexions. Et enfin, quid des gens qui, comme moi, par exemple, moi j'ai 4 enfants que je vais devoir garder à la maison, qui vont devoir sortir. Comment on fait pour faire des télécours, des téléconférences, des cours avec des gamins, enfin du télétravail, alors qu'on a nous-mêmes nos gamins qui vont plus à l'école et qui doivent être gardés.
Selon le gouvernement, les ressources et supports du Centre national d'enseignement à distance seront proposés. Avec le CNED, des classes virtuelles sous forme de visioconférences pourront être mises en place. Mais pour le syndicat Sud Éducation 05, le gouvernement fait des effets d'annonce.
Il ne faut vraiment pas être un pédagogue progressiste pour imaginer qu'un enfant de grande section va pouvoir suivre des cours, apprendre à écrire ou au CP, je ne sais pas quel âge, mais en tout cas devant un ordinateur. c'est complètement irrationnel. C'est-à-dire, moi, je suis prof de sciences et vie de la Terre, je fais des TP, je fais des cours, la pédagogie, ça se fait en face à face. Je dis pas qu'on peut pas assurer une espèce de fil conducteur de temps en temps en disant, ben, on devrait en être là dans le programme, on devrait ci, on devrait être là. Assurer la continuité pédagogique, c'est illusoire.
Un dossier à retrouver sur alpe1.com.
Un mot de sport pour terminer avec le rallye du Mexique qui a été stoppé ce week-end du fait de la situation sanitaire.
Un rallye qui s'est achevé ce samedi soir avec la victoire de Sébastien Ogier. Il s'agit de la première de la saison pour le haut alpin et de sa 6e au Mexique, 2e au Monte Carlo, 4e en Suède. Ogier prend aussi la tête du classement provisoire du championnat pilote.
L'actu des Alpes du Sud continue sur les applications pour smartphones.